Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Tour d'énergie et basalte paramagnétique », sous-titré « Électroculture agriculture énergétique », est un ouvrage de Loïc Etchebury consacré aux approches qui cherchent à mobiliser des phénomènes naturels dans les pratiques de culture. Les informations publiques disponibles indiquent que le livre traite particulièrement des tours dites d'énergie, du basalte et des techniques paramagnétiques. Il se situe donc à la croisée de la permaculture, des amendements minéraux et des théories de l'électroculture. Son objectif apparent est de présenter des usages pratiques de ces éléments pour concevoir une agriculture jugée plus respectueuse des milieux. Le livre ne relève pas du manuel agronomique académique classique, il explore un courant où les observations de terrain, les interprétations énergétiques et les pratiques alternatives occupent une place importante. Une lecture rigoureuse suppose ainsi de distinguer les propriétés minérales établies, notamment la nature volcanique du basalte et sa réponse magnétique faible. Des effets agricoles plus larges qui demandent des validations expérimentales indépendantes, je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le basalte comme amendement minéral et matériaux paramagnétiques. Le basalte constitue le second pôle explicite du titre et semble être abordé à la fois comme roche volcanique et comme matériaux auxquels les approches paramagnétiques attribuent une fonction agricole. Sous forme broyée, le basalte est couramment envisagé comme une source lente de minéraux dans les sols, même si son intérêt agronomique concret dépend de sa granulométrie, de sa composition, du climat, du pH et de la biologie du sol. Le paramagnétisme désigne quant à lui une faible réponse à un champ magnétique externe. Il ne signifie pas que le basalte se comporte comme un aimant permanent. Cette distinction est essentielle pour lire le sujet sans confusion physique. Les matériaux basaltiques peuvent varier fortement selon leur origine géologique, notamment par leur teneur en fer, magnésium, calcium et silice. Une démarche sérieuse doit donc partir de la caractérisation du produit, du besoin réel du sol et des conditions de culture. Les sources associées au livre relient le basalte à la vie du sol, au paillage et à la résistance au manque d'eau. Ces pistes relèvent toutefois davantage de retours de pratiques et de cadres interprétatifs alternatifs que de conclusions générales. Le livre paraît ainsi invité à considérer le basalte comme un élément de système, plutôt que comme une solution universelle applicable sans diagnostic préalable. Deuxièmement, les tours d'énergie dans le cadre de l'électroculture. Les tours d'énergie forment le premier objet annoncé par le livre. Dans le vocabulaire de l'électroculture, elles désignent généralement des structures installées près des cultures afin de capter, orienter ou modifier les influences électriques et électromagnétiques présentes dans l'environnement. Cette idée renvoie à une tradition ancienne de dispositifs agricoles utilisant des antennes, des conducteurs ou des formes verticales. Le point central n'est pas seulement la construction de la tour, mais l'hypothèse selon laquelle les plantes et le sol réagiraient à des variations électriques, atmosphériques ou magnétiques. Les organismes vivants sont bien soumis à des phénomènes bioélectriques et aux conditions météorologiques. En revanche, l'efficacité agricole reproductible de tours spécifiques ne constitue pas un acquis établi de l'agronomie conventionnelle. Le thème doit donc être compris comme une proposition de pratique exploratoire. Sa valeur pratique dépendrait de protocoles simples, conserver une zone témoin sans dispositif, comparer des cultures semblables, relever les apports, l'irrigation, les maladies et les rendements sur plusieurs saisons. Cette méthode permet d'éviter d'attribuer à une tour les effets de facteurs ordinaires comme la fertilité initiale, la météo ou la qualité du compost. Le livre se distingue ici par son intérêt pour les dispositifs physiques dans le paysage cultivé, un sujet rarement développé dans les guides de jardinage usuels. Troisièmement, une agriculture énergétique pensée comme interaction avec le milieu. Le sous-titre agriculture énergétique indique un cadre de lecture plus large que la seule fertilisation. Cette expression rassemble des pratiques qui interprètent le jardin ou la ferme comme un ensemble d'interactions entre sol, plantes, eau, atmosphère, matériaux et champs naturels. Dans cette perspective, l'efficacité ne serait pas seulement liée aux unités d'azote ou au traitement, mais aussi à la structure du sol, à la circulation de l'eau, au couvert végétal et à la position des installations. Cette vision systémique peut présenter un intérêt intellectuel lorsqu'elle rappelle que la productivité dépend de relations écologiques multiples. Elle devient plus problématique lorsque le terme énergie sert à désigner des mécanismes non définis ou impossibles à mesurer. Le sujet exige donc un vocabulaire précis, énergie électrique, champ magnétique, conductivité, humidité, température et activité biologique ne sont pas interchangeables. Les informations accessibles associent le livre aux énergies naturelles présentées comme gratuites et inépuisables. Cette orientation explique son appartenance aux ouvrages d'alternatives agricoles plutôt qu'aux traités de sciences du sol. Une lecture utile consiste à retenir les questions concrètes soulevées par cette approche, par exemple comment réduire les intrants et améliorer les conditions du milieu. tout en refusant de confondre hypothèses, observations personnelles et preuves. Le livre semble proposer un imaginaire technique de l'autonomie agricole fondé sur des éléments disponibles localement. Quatrièmement, la place des observations de terrain et de la vérification expérimentale. Un ouvrage consacré à l'électroculture et au paramagnétisme doit être lu avec une attention particulière au niveau de preuve. Les descriptions publiques parlent de recherches personnelles et de techniques paramagnétiques. Elles signalent une démarche qui paraît ancrée dans l'expérimentation et dans l'interprétation de phénomènes observés au jardin ou au champ. Les observations de terrain sont précieuses pour faire émerger des hypothèses, surtout dans des systèmes agricoles complexes où de nombreux facteurs interagissent. Elles ne suffisent cependant pas à isoler une cause. Une plante plus vigoureuse près d'un apport de basalte ou d'une tour peut aussi bénéficier d'une différence de sol, de drainage, d'exposition, de paillage ou de soins. Le lecteur peut tirer parti du livre en transformant ses propositions en essais contrôlés à petite échelle. Il est pertinent de documenter la parcelle, de répéter les essais, de comparer avec une modalité témoin et de mesurer des indicateurs explicites comme la biomasse, la germination, la consommation d'eau ou les symptômes de carence. L'analyse de sol avant et après apport aide aussi à séparer la contribution minérale du basalte des explications énergétiques. Cette exigence ne disqualifie pas les pratiques alternatives. Elle leur donne au contraire une possibilité de confrontation honnête avec les résultats. Le thème met en évidence la tension structurante du livre entre une ambition pratique et des mécanismes qui restent discutés hors des milieux spécialisés. En dernier lieu, le basalte dans une stratégie de sol couvert et de résilience hydrique. Les sources liées aux échanges de Loïc Etcheberry autour du basalte évoquent son emploi avec couverture du sol, fumier ou paillage, ainsi que des effets attendus sur les plantes et la résistance au manque d'eau. Cette association est importante car elle replace le matériau dans un itinéraire technique cohérent. Un sol couvert limite directement l'évaporation, amortit les variations de température, favorise l'activité biologique et peut améliorer l'infiltration de l'eau. Ces mécanismes sont connus indépendamment de toute interprétation paramagnétique. Un apport de poudre de roche ne remplace donc ni la matière organique, ni une gestion adaptée de l'irrigation, ni la protection contre l'érosion. Il peut éventuellement compléter une stratégie de reminéralisation sous réserve que la composition du basalte et les besoins du sol le justifient. Le livre paraît relier ces pratiques matérielles à une lecture énergétique du sol. Cette articulation peut intéresser les lecteurs qui veulent intégrer les amendements minéraux à une conception globale du jardin. Elle appelle aussi à la prudence, les bénéfices attribués au basalte doivent être distingués des bénéfices très plausibles du paillage et de l'amélioration générale de pratiques culturales. Le thème souligne finalement une idée opérationnelle, les résultats agricoles proviennent souvent de combinaisons de leviers d'aide modestes et durables, plutôt que d'un unique dispositif ou matériau présenté comme déterminant. En conclusion, tours d'énergie et basalte paramagnétique s'adressent surtout aux jardiniers, maraîchers amateurs, praticiens de permaculture et lecteurs curieux des traditions de l'électroculture. Il peut également intéresser les personnes qui cherchent à élargir leurs réflexions sur les liens entre minéraux, sol, plantes et environnement physique. Son bénéfice principal réside dans la mise en avant d'un sujet peu traité par les guides de culture conventionnels, l'emploi conjoint de structures dites énergétiques C de basalte, paramagnétiques. Cette focalisation donne au livre une identité nette parmi les ouvrages sur les amendements ou le jardinage écologique, qui aborde plus souvent le compost, les rotations et la fertilité chimique ou biologique. Le lecteur y trouvera vraisemblablement des pistes de pratique et un cadre de questionnement sur les influences naturelles dans les systèmes cultivés. Son intérêt sera maximal pour une personne prête à expérimenter de façon mesurée. En gardant des témoins et en consignant les résultats, il ne faut pas le considérer comme un substitut aux références agronomiques fondées sur des essais reproductibles, à l'analyse de sol ou aux principes établis de gestion de l'eau et de la fertilité. Ce positionnement critique permet d'en tirer une utilité concrète, utiliser le livre comme source d'hypothèses et de conception, puis soumettre chaque pratique aux conditions réelles de la parcelle. Sa singularité tient précisément à cette exploration du basalte et des tours dans une vision énergétique de l'agriculture. Si vous souhaitez soutenir Loïc Etcheberry, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.